Donc, bienvenue à tous donc à notre table ronde donc, sur Tolkien, créateur d'univers. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter donc, les intervenants. Donc, on va commencer par les dames. Donc, Stéphanie Loubechine qui a fait un travail, qui a écrit un article donc, dans un livre sur, intitulé Tolkien, le façonnement d'un monde. Donc, oui, si tu peux le montrer. Botanique et astronomie, et donc qui a travaillé donc, sur les arbres chez Tolkien. Donc, tu m'arrêtes si je dis une bêtise.
Oui, c'est tout à fait ça. Voilà.
Et donc, Gabrielle Ferrandez, donc, grâce à qui nous devons notre présence ici, puisque c'est lui qui nous a mis en contact avec donc, Catherine Laurent, donc, la responsable. Donc, une des responsables, je ne sais plus, du secteur jeunesse donc, de la bibliothèque. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse la parole. Et donc après, si vous avez des questions pour lancer le débat, n'hésitez pas.
Je vais laisser la première question parce que je n'avais pas tout compris.
D'accord. On était parti sur une intervention en trois axes majeurs. Et le premier axe, c'était une présentation de l'univers comme étant un personnage à part entière de l'œuvre de Tolkien. Et du coup, apparemment, c'est moi qui m'y colle. Alors, petite question comme ça déjà. Qui connaît Tolkien? Qui a déjà lu au moins un ouvrage? N'ayez pas peur, on mange pas.
Mais c'est bien, il y a du monde.
Ceux qui ont fait les exposés, là, ils ont rien.
Non, je pense que c'est un peu mieux.
Ça tombe sous le sac.
D'accord. Est-ce que, dans les ouvrages que vous avez lus, l'univers de Tolkien vous est apparu de manière particulière? Est-ce que vous avez été plus imprégné par l'histoire ou par le monde? Ça, c'est la question piège de la soirée.
Après, le premier, on n'en pose plus.
Après, on donne les réponses. Voilà. Non, ça, c'est loin.
Bah, surtout que je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux.
Ouais, c'est un peu les deux.
Les histoires vont avec l'univers, donc on ne peut pas... Pour moi, l'un ne se fait pas sans l'autre, et l'un ne s'imagine pas sans l'autre, en tout cas.
C'est vrai. C'est vrai. C'est, en fait, je voulais arriver au fait que les histoires, notamment Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, sont des histoires de personnages. C'est un focus à une époque donnée sur des actions, des événements qui se sont passés, alors qu'on a énormément de matière sur tout l'univers, sur la création du monde dans le Silmarillion, sur tout un matériel chronologique, généalogique, historiographique qui est là, qui est assez énorme. Pour des historiens, c'est du pain béni. On ne pourrait pas rêver d'avoir autant de choses, de tout ce qu'il y a actuellement au niveau de l'Antiquité, des œuvres littéraires, ce genre de choses. Des petits exemples pour illustrer un peu mon propos. Nous avons différentes peuplades qui sont là. Nous avons un récit mythologique de la création du monde dans le Silmarillion, avec donc Eru qui... chante, qui donne un thème chanté aux Ainur et qui les incite à développer ce thème. Et par le chant, il va y avoir une création. Une terre ronde, avec des continents. On arrive à peu près à notre terre à nous. Je prends des raccourcis très rapides. On a différentes peuplades qui vont apparaître. On a les elfes, les premiers-nés. On a les nains qui... viennent d'une erreur, création. Oui, en fait, c'est une volonté délibérée de désobéir aux ordres.
Mais non, c'est les meilleurs.
On va aborder le sujet
oui,
après.
Ne commencez pas une guerre elfe contre nain.
Non, je ne dis rien.
Mais si tu peux.
Non, vas-y, continue.
Ah, et puis nous avons les hommes qui arrivent en dernier et qui sont les derniers à peupler cet univers. Donc à la fin du troisième âge, ce sont les seuls qui vont rester. Ce qui est intéressant de noter, c'est que chaque peuplade, et j'ai oublié les hobbits qui sont les principaux.
C'est
ça. Chaque peuplade a sa propre langue, à ses propres habitudes, ses coutumes, plus ou moins ses religions. Un sujet qu'on ne va pas trop aborder, parce qu'il y a peu de matière dessus.
Ou trop, enfin ça dépend dans quel sens.
Oui. Donc tout est fait pour nous donner à penser que c'est réel, quelque chose de réaliste dans lequel on peut s'immerger totalement. Il y a au début de chaque volume quasiment une carte du monde. Donc pour ceux qui l'ont lu et relu, on arrive à situer tout à fait les pays, voire même les périples des uns et des autres selon les endroits où on se trouve. Il y a des éléments chronologiques qui sont là et qui nous donnent à penser que tout ce qui est construit est réel. Que l'on peut arriver à franchir la porte et à débarquer en plein milieu de la comté, continuer la route comme le faisait Bilbo et arriver au point des fringants et demander à pouvoir beurrer une bonne bière. Ça, je sais pas, enfin, moi ça, je trouverais ça génial. Voilà. Tout est fait pour que le lecteur s'imprègne dans les romans et tout le matériel qui est à côté est là pour amener le lecteur à intégrer l'univers comme étant quelque chose de réel, comme étant un fait établi. Nous avons des mythes et légendes, nous avons
des recueils de poèmes,
tout à fait, des allusions à des chants, à la littérature.
On a tout un ensemble d'éléments, en fait, aussi bien de l'allusion à un fromage à pâte rouge que de l'allusion à une rue des Lanterniers, qui nous permettent, après, de tisser, nous, des réflexions qui nous sont propres. Du coup, ça me fait penser justement à ce bouquin qu'on a écrit avec des amis. Bon, on est des fans, on a écrit pour des fans. Et l'idée, justement, c'était de prendre ces petits détails qu'il y a dans cet univers si riche et de les mettre en lumière, d'essayer de tirer un peu les fils dessus. Des choses qu'on n'aurait pas forcément remarquées, mais qui font toute la richesse de l'univers. Quand on est dans la Cité Blanche et qu'on passe par la rue des Lanterniers, par exemple, eh ben, un de mes amis a découvert que cette rue des Lanterniers pouvait être déjà une allusion à une confrérie, donc des gens qui font ce métier-là, et en tissant de parallèle en parallèle, en prenant un peu des inspirations à droite et à gauche, il est parvenu à reconstituer, certes, ses... On ne sait pas si c'est vraiment comme ça que Tolkien imaginait, mais un peu comment pouvait fonctionner la confrérie des Lanterniers dans la Cité Blanche. Donc c'est ce genre de petits détails dont parlait Gabriel, qui font toute la richesse et qui font cette atmosphère de chez soi quand on rentre en Terre du Milieu. Donc après, voilà, on peut développer... en faire des développements sur 50 pages ou juste sur deux. Mais c'est ça qui... voilà. C'est ça qui, pour moi, donne vraiment tout l'attrait de l'univers Tolkien.
Ça va encore plus loin que dans le souci du détail, puisque je repense à un passage, je relisais hier soir, sur l'herbe à pipe. On sait même où et comment la cultiver pour qu'elle soit bonne. C'est quand même fou. On sait qu'elle n'est bonne qu'à l'Angoulay, sur les versants sud des collines qui bordent l'Angoulay. C'est arrivé à ce point-là dans le détail, car même nos manuels de botanique actuellement, ils sont plus vagues que ça.
Je confirme, ayant un peu regardé la botanique du coup chez Tolkien, parce que je fais partie d'une association qui s'appelle la Compagnie du Dragon Vert, où on fait de la reconstitution, entre guillemets, de l'univers de Tolkien. Et chacun d'entre nous interprète un personnage qu'on a inventé, mais qu'on place après dans la Terre du Milieu. Et moi, personnellement, je suis herboriste. Donc du coup, voilà, tout ce qui est, toutes les plantes en fait, qu'a cité Tolkien, on a ne serait-ce que le nom, comme Elanor, par exemple, qui permet de reconstituer, d'imaginer la fleur, alors qu'on n'a aucune autre description. Parce que c'est du Sindarin et ça veut dire ceci, cela, et du coup on arrive à se plonger là-dedans pour en tirer au moins une petite idée visuelle de ce que pourrait être les nanors. Ou l'herbe des rois, Athelas, là on en a 15 000 noms cités par les, par les herboristes. Là pareil, c'est une herbe qu'on sait analyser, qu'on saurait dessiner. Et c'est d'ailleurs, Tolkien dit, il va sortir un article là-dessus dans son prochain Archéome. Donc... on peut, pareil, là, à partir de quelques indications, arriver à recréer toute une botanique.
Un autre élément qui m'a interpellé et qui fait qu'on se sent chez soi, c'est que quelque part, on est chez soi. C'est-à-dire que dans l'univers de Tolkien, la manière dont c'est écrit, ça a été pensé pour être une histoire révisée des origines de notre monde. C'est une histoire parallèle, en fait, ce qui aurait pu se passer si... Voilà. Nous, on connaît la préhistoire. Mais en fait, là, on a une autre version de la préhistoire qui nous amène à énormément de suppositions, forcément. Mais juste pour ouvrir la chose, donc, dans le tout début de la communauté de l'anneau, on a cette phrase-là. « Ces temps, le tiers âge de la Terre du milieu, sont du lointain passé, et la forme de toutes les terres a été modifiée. Voilà. » Mais on considère que c'est déjà notre passé. Donc ce qui vient ensuite, ça fait partie de notre histoire, c'est une histoire que nous aurions pu avoir dans nos manuels, et qu'il s'est chargé d'écrire pour nous parce que ces manuels ont été perdus. Et partant de là, on peut, avec cet œil de la personne qui va faire des recherches pour faire coller les faits, analyser les différentes choses qui se sont produites. Le quatrième âge, l'âge des hommes, qui débute à la fin de la guerre de l'anneau, c'est clairement notre début de l'histoire à nous, donc au moment où l'homme reprend l'écriture, redécouvre l'écriture aux environs de 4000 avant Jésus-Christ, avec les premières grosses civilisations égyptiennes, babyloniennes, sumériennes, on est dans cette période-là. On a d'autres éléments qui peuvent nous amener à ça. Numénor, l'île engloutie. Concrètement, Platon n'est pas très loin avec l'Atlantide, hein, ça c'est une évidence. Il y a beaucoup, beaucoup de petits détails qui émaillent le récit et qui font que ben, ça parle à l'inconscient. Même si nous, en le lisant, on se dit « bon, c'est une chouette histoire, c'est sympa, à la fin il gagne, c'est génial, c'est pas du Shakespeare, ils meurent pas tous à la fin. » Mais voilà, il y a quelque chose, une réminiscence comme quoi ben, finalement on est à la maison. Et quand Sam finit en disant « je suis de retour ben, », c'est un peu le petit frère qui revient à la maison et qui apporte des bonnes nouvelles.
Rien d'autre à ajouter. Mais j'aime bien les petits frères, ça. Je l'avais jamais vu comme ça.
Adoré.
C'est sûr que oui.
Bien sûr, justement.
Il me semble que dans une de ses lettres, puisqu'il avait écrit beaucoup de lettres, mm-hmm. il explique ou il dit juste une phrase « J'ai mis beaucoup de temps à écrire Seigneur des Anneaux parce que je ne voulais pas que ce soit l'éditeur qui me l'ait demandé. » Et où on laisse, on a l'impression de comprendre qu'il veut dire j'ai moi-même écrit la chose et j'ai créé la suite de mon monde, parce qu'à la base, son ouvrage c'était pas Seigneur des Anneaux, et j'ai voulu faire ce monde pour que ce soit, comme vous dites, soit l'histoire ancienne, soit mon monde, mais j'ai mis plus de temps que ce que j'aurais pu mettre, mais parce que j'ai voulu transformer une demande en quelque chose que j'ai voulu écrire moi-même.
Et puis en plus, il était perfectionniste.
Oui. C'est vrai qu'à la base, ce qu'il aurait voulu lui publier, c'était tous les récits du Silmarillion, de l'Ainul Indale et compagnie. À la base, le Seigneur des Anneaux, c'était pas tant ça qui l'intéressait. Après, ça a pris de l'ampleur, mais sur le coup, lui, c'était plutôt les textes anciens. Ils sont maintenant publiés un peu en vrac, avec des brouillons qu'on a essayé de reconstituer, mais c'était ça qui l'intéressait plus. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les retrouve émaillés un peu dans tout le récit, comme une trame de fond. C'est que lui, il y avait tellement dans son esprit que... Quand Aragorn chante, il va chanter l'histoire de Lúthien. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout paru. Donc nous, maintenant, on a la chance d'avoir tous ces textes-là et de savoir à quoi se référer. Mais souvent, je me dis, à la place des gens de l'époque qui découvraient le Seigneur des Anneaux, ça devait être super mystérieux d'avoir ces textes-là et de se dire, ça existe plus ou moins, ils nous citent des bouts de verre, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Enfin, c'est une histoire dans l'histoire qui raconte encore une histoire. Il y a vraiment une mise en abîme qui donne toute la profondeur.
C'est un exemplaire qui a
plu.
Merci.
Si je peux
oui
juste interrompre. Justement, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est Thibaut qui en a parlé. Il voulait vraiment que le Silmarillion soit édité au début, en même temps que le Seigneur des Anneaux, parce qu'il estimait que les lecteurs ne pourraient pas comprendre le Seigneur des Anneaux s'ils ne lisaient pas le Silmarillion. Bon, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, je vais pas tout raconter parce qu'il y a une histoire très compliquée avec l'éditeur, ils n'ont pas arrêté de se renvoyer de ballon. Mais du coup, finalement, il n'a pas pu publier le Silmarillion, il s'en est un peu mordu les doigts, parce que c'est Razano qui a été publié tout seul.
Ceci dit, pour notre plus grand bonheur, parce que le Seigneur des Anneaux est quand même plus facile à lire que le Silmarillion.
Ouais. c'est vraiment un tout autre niveau pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Ça amène beaucoup d'éclairage sur en fait, les tout débuts de la création, puisqu'on a l'Ainul Indale qui est la création de l'univers. Et ensuite, on a toute la vie des elfes à Valinor avec les Valar, puis les premières migrations vers l'est et vers l'ouest pour les Hobbits. Et puis, voilà, tout un ensemble d'histoires qui confinent au mythe pour les personnages qui peuplent le Seigneur des Anneaux, mais qui sont d'une réalité tout à fait tangible pour Tolkien.
Tolkien appelait ça la jeunesse, d'ailleurs. Le scénario pour lui, c'était la jeunesse de son monde.
Tout à fait. Bah, on le retrouve clairement.
On a la même impression en ligne. En fait.
Il y a une image très extrêmement biblique, surtout dans le début et le
milieu
de la
oui,
création.
Avec la musique créée par Iluvatar, effectivement.
Mais justement, on en parlait là, juste avant que la table ronde commence. Moi, quand j'ai lu, d'abord, j'ai pas vraiment une culture biblique et compagnie. Par contre, j'ai vraiment beaucoup lu quand j'étais gamine tous les récits païens, entre guillemets, de création, que ce soit nordique ou autre. Et quand j'ai lu la Inulin Dale, pour moi c'était païen. Et c'était ça qui me plaisait, c'était ce côté plein de force vive, quelque chose de très énergique, que je ne retrouvais pas du tout dans la création biblique. Donc Tolkien a su, parce que c'est vrai que évidemment, quand j'ai grandi, je me suis plus renseignée, c'est tangible. Mais quand on n'a pas du tout la culture religieuse, biblique, il y a quand même une force dedans. Donc c'est ça qui est chouette avec Tolkien, c'est que quel que soit notre niveau, nos croyances, etc., ça nous parle quand même.
Et je ferai le petit parallèle avec Lewis, la création du monde de Narnia, où pareil, donc c'est Aslan qui crée le monde en rugissant. Donc là encore, c'est vocalisé, tout passe par la voix, ce qui est totalement biblique, puisque dans la création de la Genèse, Dieu dit et cela apparaît.
Et c'est à noter d'ailleurs, enfin, pas complètement dedans, parce que les deux auteurs étaient très croyants, surtout Tolkien qui était catholique, très catholique fervent. Et donc les deux hommes étaient proches.
Oui, ils se retrouvaient pour échanger sur la création de leur univers, pour voir un peu quels personnages ils avaient créés. C'est vrai qu'ils étaient effectivement très 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 proches.
D'autres réactions, des questions?
Oui, non, par rapport à la création d'un monde plus généralement et à la fantaisie, et justement en fait, à partir de Tolkien, on crée des mondes qui sont très cohérents, dans lesquels il se passe des histoires, mais dans lesquels il pourrait se passer d'autres histoires, puisque finalement il y a de la base pour avoir des jeux, écrire d'autres livres,
inventer d'autres histoires.
En fait, on pourrait encore écrire des tas d'histoires. Serait écrite par d'autres, mais qui se passerait dans le monde de Tolkien, parce que tout est possible dans le sens où tout est cohérent. Donc on peut s'y glisser sans difficulté. Mais ça, c'est aussi quelque chose de très particulier maintenant sur la fantaisie. Ça ouvre ces livres, mondes, qui permettent d'avoir des tas de possibles. D'une part avec ce qui est écrit, mais aussi avec tout ce qui peut être imaginé, joué, filmé, enfin tout ce qui peut. C'est quand même quelque chose d'innovant dans ce.
À ce que je sache, il n'y a que Tolkien qui a su faire ça assez,
justement,
assez puissamment.
En plus, ce qui est intéressant de voir, c'est que le monde d'Arda, donc sa terre à lui, il n'y a que lui qui a écrit dedans. Contrairement à d'autres auteurs, dont les univers ont été repris, je pense à Howard avec son Conan, qui a été repris, plagié. Sprague de Caen qui a fait un petit peu n'importe quoi avec. Mais il y a énormément d'auteurs qui se sont mis dans le monde de Conan et qui ont fait vivre des aventures à Conan. À ma connaissance, dans Tolkien, personne ne s'y est essayé.
Pas en termes d'écriture, mais qu'est-ce qu'il y a comme jeu?
En termes d'écriture, ce sera de l'écriture
de
fan, en fait.
Qui se passe dans ce monde-là, on a une histoire, même si elle n'est pas.
Ah oui, après il y a du jeu de rôle, il y a énormément de dérivés.
Ce que je pensais, les histoires écrites, elles n'ont pas été forcément publiées, mais je sais que quand j'ai débuté sur Internet, etc., je faisais partie d'un site qui s'appelle JRVF, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et il y a eu une grande époque où on écrivait tous, beaucoup, écrivaient des nouvelles dont certaines se passent à l'intérieur de la Terre du Milieu, on comblait les trous comme ça. Il y en a qui ont été très bien écrites, qui auraient pu être publiées, mais après il y a évidemment la question des droits, etc. Oui, mais
il y a un bouquin qui a été publié justement avec des histoires qui ont été créées par d'autres auteurs. Mais bon, c'est des petites nouvelles.
Oui, c'est des petites nouvelles, ouais. Mais l'idée, c'était justement de montrer qu'on pouvait prendre des personnages, ne serait-ce que des personnages qui existent déjà, et puis après broder, arriver à prendre un élément à droite, à gauche, et puis en faire quelque chose de très cohérent. Après, il y a aussi la question des droits, et je pense que c'est surtout pour ça que Tolkien n'a pas été si détourné que ça. C'est qu'il y a la Tolkien Society qui veille très attentivement au respect des droits.
Après, sur Internet, on trouve aussi tous les sites, ce qu'on appelle les fanfictions. Donc, sur de nombreux sites, effectivement, comme je disais, il y a des...
Enfin, il ne reste que tout le monde peut s'y essayer.
Tout le monde peut
oui,
s'y essayer.
Après, c'est plus ou moins bien réussi, mais...
Il y a vraiment beaucoup de gens qui écrivent, qui prennent parfois des personnages, vraiment des personnages qui, à la base, paraîtraient complètement anodins et qui vraiment brodent autour et finissent par créer, pas aussi bien que Tolkien certes, mais finissent par créer eux-mêmes une histoire qui s'insère effectivement très bien dans la Terre du Milieu.
Cela dit, au-delà des droits, c'est vrai qu'ils sont protégés. Je me demande si on a un peu évité justement le pillage de son œuvre parce qu'avec le temps, elle a vraiment... acquérir une sorte de sacralité presque.
Ouais. Le statut aussi de mastodonte, quoi. Tout le monde maintenant connaît. Mmh. Donc plagier, ça serait tout de suite visible. Quelques nouveaux bouquins de fantasy, le nouveau Tolkien, etc., où ils vont essayer de...
Ils connaissent que celui-là, donc.
Oui, voilà. Mais où il y a... Je me rappelle plus, j'avais lu ça quand j'ai eu une grosse période de fantasy. Il y avait vraiment des reprises du Sindarin, machin, qui s'était tout mélangé, etc. Mais ça rendait pas. C'était plat, c'était creux. Enfin, il faut avoir le génie de Tolkien pour arriver à faire quelque chose de solide avec juste des langues inventées et un petit peu d'elfes et de nains par-ci par-là, quoi.
Mais ça contribue quand même au succès auprès des gens, auprès de tout le monde, de pouvoir, même
oui.
si c'est que dans notre tête finalement,
de l'approprier.
Des histoires parallèles à tout ça et imaginer des choses autour du monde. Une rue, etc. Je trouve que ça, c'est quand même assez particulier. Ça fait vraiment participer les gens d'une certaine manière.
C'est pas moi qui vous dirais l'inverse, vu le nombre d'associations auxquelles je participe.
Justement, ce qui plaît aussi aux gens, c'est le fait que, ça, d'une certaine manière, consciemment ou moins consciemment, ça les fait réaliser que l'imagination humaine, finalement, peut être très très vaste, vu quand on voit la taille, l'immensité de l'univers qu'il a créé. Et je pense que quelque part, les gens. Se disent il a vraiment réussi à inventer tout ça. Bon, c'est beaucoup des complexes, mais ils se disent c'était un humain comme les autres, brillant certes, mais nous aussi on peut imaginer un monde de toutes pièces comme ça.
Et puis ça ouvre aussi à beaucoup de choses, parce que moi je sais qu'à travers Tolkien il y a plein de choses de notre vie réelle, des philosophes, de la botanique, etc., que j'ai découvert grâce à Tolkien. L'astronomie, je ne suis pas très, très forte, mais j'ai des amis qui sont passionnés pour l'astronomie à partir de Tolkien et des citations comme ça d'étoiles qu'il avait et de constellations qu'il avait inventées. Enfin, c'est ce parallèle qu'il y a entre les inspirations que Tolkien a eues, celles qu'on trouve dans Tolkien, et le monde autour auquel on peut relier un peu de tout, quoi.
Alors justement, vous êtes spécialiste visiblement des arbres, enfin de la botanique. D'où vient cet intérêt là, pour la botanique dans l'œuvre de Tolkien? C'est basé sur un mot, sur musicalité, sur
une poétique.
Ouais. Il avait une passion pour l'arbre.
Et il avait une façon de les décrire à chaque... Enfin, moi j'y étais sensible en tout cas, donc c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus. Et j'ai encore quelques articles sous la manche, voilà. Mais oui, c'est ça, la poétique de l'arbre qu'il a. Déjà il y a les deux arbres forcément qui ont été créés par les Valar, qui ont une importance fondamentale, mais aussi tout au long de l'écriture de Tolkien, vous allez rencontrer les Arbiers et les Ents, qui sont un peu emblématiques. Mais là par exemple, je m'étais penchée sur la figure du saule et du bouleau. Bon, le saule, on connaît le vieil homme saule, on a les saulettes Tassarinan, etc. Donc c'est un arbre qui est assez bien représenté. Le bouleau est beaucoup plus discret. Alors qu'en fouillant un petit peu, moi, dans les étymologies, comment Tolkien le nommait, etc., je me suis rendu compte que c'était un arbre qui était primordial, mais complètement caché. C'est l'arbre d'Elbereth, qui est quand même l'elfe, la Maya, qui est la plus adorée des elfes. Donc c'est pas rien. Et tout ce qu'on a, nous, c'est quelques petites citations, allusions, dans un décor, voilà, on va trouver un bouleau, alors qu'il est dans un lieu emblématique. Mais il sera juste si c'est comme ça. Donc c'est cette poétique des arbres, de la façon dont il est décrit, qui m'a intéressée, qui m'a attirée. Pas d'autres questions?
Non. tu veux enchaîner sur la suite
Je crois qu'on a déjà bien abordé. Une deuxième question, c'était les inspirations de Tolkien, ou non-inspiration.
Ouais.
Donc là, on en a cité quelques-unes déjà. On a cité la Bible.
Voilà.
On a cité tous les récits antiques. Alors peut-être pas trop les gréco-latins parce que...
Il était plutôt nordique.
C'était plutôt nordique, voilà.
Entre l'Edda et le Mabinogion.
Voilà, tous les noms de nains qui sont tirés des textes nordiques. Le côté gréco-latin, ça sera plutôt pour justement Numenor, l'île disparue. Quoique pour lui, c'était plus un thème, je pense, inconscient qu'autre chose. Parce que quand il nous racontait, quand il raconte dans ses lettres la submersion de Numenor et comment ça lui était apparu, les premiers textes qu'il a écrits, pour lui, c'était d'abord un rêve. Donc, inconsciemment, peut-être qu'il y avait l'idée de l'Atlantide, mais n'importe quelle île submergée peut nous rappeler ça. Mais les inspirations de Tolkien, je pense, viennent à la fois de tout ce qu'il lisait, et il lisait énormément, mais dans sa tête, en fait, je pense que ça lui fait une sorte d'imbroglio, un terreau sur lequel a poussé toutes ses histoires. Pour revenir à la métaphore de l'arbre. Tout ça lui a servi, lui parlait de soupe dans son écrit sur Faerie. Moi, je verrais plutôt ça comme un terreau, en fait, un terreau fertile sur lequel il a puisé pour construire son histoire. C'est pour ça qu'on arrive à trouver un peu de tout dedans. Et parfois, moi, j'ai trouvé, par exemple, des références à Bachelard, enfin, des références. J'ai pu tirer des liens vers Gaston Bachelard, ses écrits sur la poétique, alors que, honnêtement, Tolkien ne connaissait certainement pas Bachelard, et vice-versa. Mais il y a cette façon de rêver, cette façon d'écrire, que d'autres ont eue, et qui nous permet de mieux comprendre et les uns et les autres.
Ouais,
je pars un peu, pardon, dans la philosophie.
Non, mais aucun souci. Non, moi, je sais qu'on a beaucoup mis en avant son attirance pour le mythe des Nibelungen, parce que forcément, qui revient quand on voit le Seigneur des Anneaux.
Qui disait que le seul point commun, c'était qu'il y avait un anneau et qu'il était...
Voilà. C'est ça.
Il n'était pas très d'accord.
Non, il y avait Beowulf, surtout.
Oui,
c'est ça, c'est les sagas nordiques, entre Beowulf d'un côté, Rolf Kraki de l'autre, la quête de l'immortalité, énormément de choses qui sont là, qu'il connaissait, puisqu'il ne faut pas oublier que c'était un universitaire, c'était un professeur de linguistique, donc il connaissait, il lisait en plus dans le texte, le cochon, donc il avait un temps d'avance sur les contemporains, et du coup, j'aime bien l'image du terreau, ça a mis son esprit en ébullition pour arriver à ce genre de choses. Bon, à côté, on a aussi quelqu'un qui est un grand rêveur et un passionné. Du coup, de là à « je veux être Victor Hugo ou rien », on n'a pas grand-chose.
Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques ou des choses qui vous ont frappé quand vous avez lu Tolkien, qui vous ont fait penser à autre chose.
Moi, j'avais une question, en fait. C'est parce qu'on sait que les créatures fantastiques de Tolkien sont beaucoup utilisées dans les jeux de rôle et dans l'histoire récente de la fin du XXe siècle. Et ma question est peut-être un peu piège, mais est-ce que son invention vient de lui, ou elle vient des textes médiévaux, ou elle vient de la mythologie nordique, ou un peu de tout mélangé?
Alors, quelles créatures en particulier? Parce que...
Les gobelins...
Le problème, déjà, ne serait-ce que pour ses inspirations mythologiques, si on dans le domaine de la mythologie, si on creuse un peu, en fait, c'est très difficile de distinguer certaines légendes d'autres, étant donné en fait que la mythologie, dans toute la période, a suivi la migration des peuples. Donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de correspondances, par exemple. Le vampire, beaucoup de gens s'imaginent que c'est un mythe médiéval, alors que à la base c'était des fantômes grecs. Enfin bon, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, les gobelins, ils pourraient tout à fait correspondre à des fantômes irlandais, ou encore les elfes noirs comme ils étaient décrits dans la mythologie nordique, qui étaient des petits monstres qui buvaient le sang des gens, des honnêtes gens. Et dans ce cas-là, c'est difficile vraiment de savoir d'où vient l'inspiration. Mais, quoi qu'il en soit, comme on l'a dit, mais je pense que c'est important de le souligner, c'est vraiment la mythologie nordique, notamment, pour moi, ce qui est le plus emblématique, c'est l'usage des elfes et des nains, qui sont deux peuples de la mythologie nordique, même si dans l'œuvre de Tolkien, ils sont pas vraiment présentés comme ils l'étaient dans les textes traditionnels.
Pas du tout.
Enfin, oui, même pas du tout, en l'occurrence surtout pour les elfes. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'il a pris finalement les termes, mais il s'est complètement réapproprié les créatures, puisque les elfes sont grands, blonds, graciles.
Ce qu'on peut dire un peu, c'est que ça existait, ça préexistait à Tolkien, cet être-là, mais qu'à partir de Tolkien, il est écrit dessus, ça a figé une image qu'on a gardée aujourd'hui, sur laquelle on a tous un peu dans le conscient collectif, on a l'image de Tolkien, qui a donné à cette créature, qui existait pourtant avant lui depuis des milliers d'années, des centaines d'années en tout cas, et qui avait eu divers visages, divers interprétations, et que lui, il nous en a donné une image qu'on garde maintenant à peu près, et qu'on voit dans toutes les adaptations, que ce soit à la télé, dans les livres ou dans d'autres œuvres, c'est un peu l'image de Tolkien qui en a.
Et c'est vrai que d'ailleurs, tous les ouvrages d'Heroic Fantasy qui ont été écrits après Tolkien, il y en a très peu qui ont osé changer l'image d'un elfe, ou changer l'image d'un orc, ou d'un nain.
Ils ont des points communs.
Voilà, mais ils ont du mal après à changer l'image.
Et ce qui est très drôle, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, c'est que quand moi je vois ou je lis des ouvrages ou des films où ça change, je dis mais c'est pas comme ça, c'est pas possible, ils sont plantés quoi, c'est pas vrai.
C'est marqué par ce que Tolkien a écrit, l'image qu'il nous en a fait passer, alors que je sais pas, mais je crois que lui quand il a écrit, il n'a pas fait de dessin de ces personnes, c'est d'autres qui ont illustré ses livres.
Oui.
Après c'est pas lui, et pourtant c'est cet imaginaire-là, par ses textes, qui nous a fait passer.
Oui, c'est là que je voulais revenir, c'est que pour moi en tout cas, c'est vraiment un texte fondateur de la mythologie. C'est-à-dire que c'est inspiré de beaucoup de choses, mais il a ancré dans notre imaginaire.
Il a recréé une mythologie.
Voilà, recréé, qu'on a tous quoi, presque.
Oui, la création d'univers, parce que c'est le thème de la table ronde. Oui. Créateur d'univers, et je dirais même créateur d'univers en cascade, puisqu'à partir de Tolkien, tout le monde s'est mis à faire du vraisemblable dans le merveilleux. Avec les cartes systématiquement, il faut absolument la carte au départ.
À l'échelle.
Voilà, pour que ça devienne vraiment ancré dans l'imaginaire, ça aussi.
Il y en a très peu qui la font pas, les cartes.
Ouais. Ne serait-ce que quand on envoie des personnages en pérégrination, c'est pratique de savoir où est-ce qu'ils sont passés. Oui. Pour revenir juste sur les elfes, parce que comme j'interprète une elfe dans... la compagnie d'Arthur. Je voulais juste préciser. Il y a aussi ce qu'on appelle l'imaginaire collectif, qui justement imagine les elfes comme grands, blonds et graciles. Alors Tolkien les écrit grands, certes, mais graciles, pas forcément, parce que Beleg Cúthalion est capable de bander un arc en acier. Il n'est pas très gracile. Un arc en acier, déjà un arc tout court, je ne sais pas si vous avez essayé, mais en acier, ça doit être beaucoup plus dur. Et de même sur la couleur des cheveux, etc. Enfin, y en a qui ont les cheveux blancs, d'autres blonds certes, mais il y a aussi des bruns. Enfin, l'imaginaire collectif a cristallisé, lui, uniquement l'elfe gracile et blond, mais là on revient justement à cette vision des elfes blancs, nordiques, qui eux étaient comme ça, sauf qu'ils étaient tout petits au lieu d'être très grands. Mais ils étaient lumineux, ils étaient graciles. Donc Tolkien a décrit des peuples. Mais dans une de ses lettres, par exemple, pour les elfes, il dit je regrette de les avoir appelés elfes. J'aurais pas dû les appeler comme ça, parce que maintenant tout le monde se les imagine avec des petites ailes dans le dos et des oreilles pointues, alors que c'était pas du tout ça que je voulais décrire. Parce qu'il y a eu aussi l'imaginaire victorien des petits elfes comme ça qui s'appellent la fleur, les fées. Voilà. Donc, il y a certes, la fantaisie s'est beaucoup inspirée du monde de Tolkien, mais certaines de ses créations. Moi je connais bien les elfes, mais peut-être c'est pareil pour les nains. On souffre aussi un peu d'une cristallisation autre que celle que Tolkien aurait voulu donner.
Mais c'est peut-être plus aussi parce que Tolkien décrit une grande variété d'elfes. Alors que les elfes, par exemple, qu'on voit à fond de compte, sont typiquement grands, gracieux et beaux.
Oui, après, ils sont tous beaux, de toute façon.
Ils sont tous
des elfes.
Mais c'est peut-être, voilà, dans l'imagine, nous, on s'est construit un type d'elfe, alors qu'il en existe énormément dans le monde qu'il écrit.
Il y a un autre élément qui a fait beaucoup de mal, entre guillemets, à cet imaginaire-là. C'est la faute à un monsieur qui s'appelle Gary Gygax, qui a fait Donjons et Dragons, le jeu de rôle. Et tous les dérivés qui ont lieu après, où les elfes sont tous des personnages beaux, élégants, graciles, efféminés.
Voilà.
Les nains sont tous des bourrins, buveurs de bière. On n'est pas très loin, mais il a contribué à la cristalliser.
Un peuple esthète.
Oui, mais ils ont, ils ont quand même...
ils ont quand même un art de la guerre.
Voilà, un art de la guerre assez poussé.
Et après, ouais, c'est vrai que ça dépend aussi, parce que...
Bah, suivant où on se place, en premier âge, deuxième, en fait, voilà. Ouais. C'est vrai qu'au troisième, ils sont plutôt effacés, et tout ce qu'ils cherchent, c'est partir. Donc, ils font beaucoup moins.
Et comment, je ne sais pas comment ça s'est passé, l'illustration de l'œuvre, en fait. Il y a eu des illustrations dès le vivant Tolkien.
Bah, il en faisait lui-même.
Oui,
voilà, d'accord.
Il en faisait lui-même, et puis ensuite, c'était des amis. Le premier, je crois, c'était une amie à lui, qui l'a recommandé ensuite
Pauline
à Lewis.
Bain. Pauline Bain, qui a fait de très très jolis dessins, mais pas seulement, du Seigneur des Anneaux, enfin, le Seigneur des Anneaux, je crois pas qu'elle en ait fait d'ailleurs. Elle
non,
en a fait
Bilbo.
Pour Bilbo, elle en a fait pour les Aventures de Bombadil, elle en a fait aussi pour un de ses contes, Smith of Wotton Major, Smith de Grand Wotton, je crois que ça a été traduit en français. Enfin, il y a eu plusieurs traductions en français, donc je sais jamais laquelle. Et après, oui, effectivement, il l'a conseillé à Lewis pour Narnia. Et ensuite, il y a eu Alan Lee. Y a eu... Par contre, je serais incapable de dire dans quel ordre.
C'est, le premier, c'est pas Nasmyth.
C'est peut-être Nasmyth. Je la
Puis les frères Ilfgarn. Il y a eu énormément de personnes qui sont mises. Là, tout récemment, il y a deux mois, on a ressorti un ouvrage de Corbrock qui a fait des tapisseries, des illustrations en tapisserie, du vivant de Tolkien, puisque Tolkien en avait acheté deux. Voilà. Ça... Après, chacun y est allé. Ça a été du. Très rapidement du fan art. Je sais pas s'il y a eu une.
Je crois pas qu'il y ait eu de commande à proprement parler. Ou...
Non. De la part des éditeurs, certainement.
Oui, peut-être, sans nous les éditeurs, mais de la part Tolkien, j'ai pas souvenir. À part Pauline Bain, justement. Alors, je sais que dans certaines lettres, des fois, ils pestent parce que des gens dessinent les personnages pas du tout comme ils les imaginaient lui. Par exemple, Tom Bombadil, je crois, à un moment, je sais plus qui l'avait dessiné, mais non, il est pas du tout comme ça. Il est plus petit, il est plus grand, il est plus comme... Enfin, lui, il avait vraiment les personnages dans sa tête, mais quand il dessinait des personnages, c'était un peu plus catastrophique, on va dire.
Ouais.
Il dessinait très bien les paysages, par contre, les bonhommes, un peu moins.
On ne peut pas tout avoir. Hein.
Non, on ne peut pas être un écrivain de génie et puis savoir dessiner.
Est-ce que vous savez comment il a décidé de créer son... Comment, qu'est-ce qui a déclenché son envie de créer son...
Ça, c'était la question pour nous séger, okay, c'est ça?
Tu sors.
Ça, c'était la question.
Il a eu toujours plus ou moins des contes dans la tête. Enfin, il a commencé à écrire, par exemple,
c'était
Bilbo.
C'était un conteur.
Voilà, Bilbo, ça a démarré sur une marge d'une copie qu'il corrigeait, et puis il a commencé à écrire In a Hole Lived a Hobbit. Puis après, il s'est dit, pourquoi j'ai écrit ça? Pourquoi Hobbit? Enfin, c'était un conteur, il avait tous ses récits dans sa tête, il racontait des histoires à ses enfants. Robert Random, par exemple, l'histoire du petit chien perdu, c'est une histoire qu'il a inventée comme ça au fur et à mesure pour son fils qui avait perdu un jouet. Donc, il avait cette habitude-là d'inventer des histoires un peu constamment, et je pense que ça lui est venu comme ça. Il y avait aussi l'idée du pari avec Lewis, d'écrire une histoire de retour dans le passé. Donc, c'était pour raconter la chute de Numenor, justement. Ça a été un peu le point de départ, mais je pense qu'après, ça a complètement submergé tout ce qu'il avait.
Bilbo, c'était un ami qui assistait à une veillée chez les Tolkien. Donc, il a entendu l'histoire racontée aux enfants, et il a pris Tolkien à partir en disant « Mais tu devrais l'écrire, parce que ce que tu racontes, c'est génial, il faut que tu le mettes sur papier. » Bon, il a traîné un petit peu les pieds, mais quand il l'a fait, ça s'est très bien vendu. Ça a été un point de départ.
Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait recréer un monde équivalent à celui de Tolkien ?
Difficilement.
C'est extrêmement dur. Il y en a beaucoup qui s'y sont essayés. Il n'y a qu'à voir la production en fantasy et en science-fiction. Mais je ne pense pas, et je ne suis pas sûr qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui me contredise, que ça ait la profondeur du monde que Tolkien a développé. Même pour les plus réussis.
Assassin Royal, par exemple.
Ouais, c'est pas celui-là qui me venait à l'esprit, mais...
C'était le deuxième que j'avais dit.
Il y en a un qui se rapproche, mais dans un tout autre univers, qui est quand même effectivement beaucoup moins creusé, c'est La Guerre des Étoiles.
Oui,
pareil, de toute façon, dans la fantasy, ça ne peut pas, parce que sinon...
C'est dans le même... Voilà, il faut le faire dans un autre
fiction et dans quelque chose. Il y a quand même un livre qui... Bon, il n'est pas aussi creusé, je dirais quand même, mais la trilogie, je ne sais pas combien, Dune.
Oui.
Bon, il n'est peut-être pas aussi construit tout le monde, mais par contre...
Il est extrêmement creusé quand même.
Il est très creusé, mais il met l'accent sur la politique, voilà. C'est vraiment
des conflits politiques. C'est pas aussi global, ouais. Mais par contre, il y a des trucs bien...
Dans les univers fantasy, moi je pensais à Eddings, qui est un descendant direct de Tolkien, avec sa Beleriand, sa Malauré, donc une décalogie sur un univers qu'il a inventé, en hommage à Tolkien, et où... Bon, alors par contre, c'est blindé de lieux communs. Ce qu'aujourd'hui, nous, en fantasy, on considère des lieux communs, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Parce que c'est sorti en 2000 en France, donc on avait déjà pas mal de littérature fantasy qui était sortie avant, mais l'écriture initiale, c'était les années 80, 81, la première histoire, donc c'était quelque chose qui était assez proche du Seigneur des Anneaux, et qui renouvelait le genre par... par toutes les platitudes qu'il émettait. Parce qu'il imagine, je ne sais plus il y a combien, il y a une quinzaine de peuplades différentes, humaines, mais avec des langues différentes, avec des religions, des us et coutumes. Il a sorti un ouvrage qui s'appelle... j'ai mangé le nom, ça y est, c'est pas grave. Donc il a sorti un ouvrage qui résume, en fait, pour chaque peuplade, toutes les études qu'il a faites. Donc pour chaque région des cartes qu'il a dessinées, on a localisation, monnaie, études typologiques, géographiques, historiques, on a tout. Après, son idée c'était, vous avez la matière, vous avez le talent, vous l'avez pas, c'est autre chose. Vous pouvez prendre, vous écrivez, vous faites 10 000 pages. Allez, c'est parti. Il pourrait s'en rapprocher.
Mon collègue veut savoir qui est Tom Bombadil.
Tom Bombadil.
T'as vu que les films.
Non. Je sais que c'est une question un peu épineuse.
Bah, c'est alors ça dans le deuxième débat.
Oui.
Ouais. Là, on va sortir les couteaux.
On ne sait pas ce que c'est.
En tout cas, il est très vieux. Ça, c'est.
Il y a plusieurs hypothèses.
Mais c'est pas dans les annexes du Seigneur des Anneaux qu'à un moment donné, je crois, il essaie un petit peu d'écrire qui est le personnage.
Non, pas dans les annexes. Il en parle dans les lettres, effectivement. On a les aventures de Tom Bombadil, qui est un petit recueil de poèmes.
Ah bah oui, c'est sûr.
C'est peut-être ça, voilà. Où là, on trouve des aventures de Tom Bombadil. Il y a aussi un autre poème qui avait été publié dans un recueil obscur que j'ai réussi à retrouver sur Internet et que j'ai traduit par la suite, qui parlait des linets. Ça s'appelait « Il était une fois ». Et où là, on a quasiment la genèse de l'histoire de Tom Bombadil et Bédor, qui remonte vraiment en très très loin dans le temps. Mais sans donner vraiment plus d'indications. On sait juste qu'il était là déjà, il n'avait pas encore sa jaque bleue, mais donc, on sait que pour Tolkien, c'est un personnage qui est très 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 ancien.
Il existe.
Mais voilà. C'est un mystère. Et il a voulu consciemment que ça reste un mystère. Il ne voulait pas donner d'explication.
Il n'a pas de début, il a de fin. C'est Tom Bombadil. D'ailleurs, à un moment, les Hobbits lui posent la question, il dit je suis Tom Bombadil. Point.
Et là, on répond il est le maître. C'est, voilà.
C'est tout.
He's the master.
Et pour ceux qui pensaient que c'était l'avatar de Tolkien, Tolkien se voyait comme un hobbit.
Mmh. Ouais, on dit.
D'ailleurs, les hobbits correspondent assez à la description.
Tout à fait. Et je sais pas si vous le savez, il y a un jeu de rôle en ligne sur le Seigneur des Anneaux, qui s'appelle Lord of the Rings Online, tout bêtement. Et les concepteurs se sont amusés à récupérer pas mal d'anecdotes, des volumes et de l'histoire de Tolkien. Et si on fouille un petit peu, on trouve dans une taverne dans la comté une salle cachée où se réunissent quelques hobbits en train de fumer la pipe. L'un d'eux s'appelle John. Et donc on a là le cercle de réunion des Inklings.
D'accord.
Voilà.
Ah, sympathique ça.
Pour le plaisir.
C'est sympathique. D'autres remarques, questions pièges.
Il y a une chose qu'on ne trouve pas justement dans les Seigneur des Anneaux de Tolkien, c'est les femmes. Il y a très peu des femmes en fait. Et certains ont dit que la situation que Tolkien avait un côté assez misogyne, assez poussé. Parce que la situation qu'il fait aux femmes n'est pas enviose. Et la seule femme qui sort, il y a deux ou trois femmes, pas plus.
Éowyn,
dans des mythes de Galadriel. C'est Éowyn qui est d'ailleurs mal vue par son peuple.
Elle n'est pas mal vue par son peuple.
Elle est hors du. Disons qu'elle est en marge.
Elle est hors des.
Voilà. Elle n'est pas mal vue parce qu'à la fin, c'est une héroïne. Ouais. Elle est en marge, elle est tout le temps en marge. Et que autant Bessor ou Arwen, le rôle des femmes, c'est quand même d'être très effacé et de servir leur mari.
Alors, il n'était pas foncièrement misogyne, mais c'était très le produit de son époque.
Voilà,
il était catholique fervent.
Très conservateur.
Très conservateur, ce qui explique.
On est dans les années 50, ce qui est en rien.
Ceci dit, quand j'étais ado, je pestais assez contre cet état de fait d'ailleurs. Le fait qu'il n'y ait pas de femmes auxquelles je puisse m'identifier, parce que Éowyn était trop guerrière, Arwen était trop effacée, Galadriel était trop puissante. Bédor, voilà, bon, bah, Lucienne, c'était quand même un peu exagéré. Donc, c'est vrai que les femmes apparaissent toujours en arrière-plan. Par contre, elles ont une réelle puissance. Dans le sens où, même si c'est pas elles qui prennent les devants, c'est pas elles qui vont mener les guerres, ou pas forcément, parce que Galadriel est une guerrière, c'est quand même elles qui vont mener la barque. Et c'est un peu comme la figure du bouleau qui est toujours en transparence, mais toujours là. Les femmes, en fait, c'est jamais elles qui vont faire les grands éclats, mais c'est elles qui vont manœuvrer derrière pour mener les hommes où elles veulent. Donc on a par exemple, on a Méliane, l'épouse de Eluthringol. C'est elle qui tient les rênes. C'est bon, en même temps, elle peut, c'est une Maya. Mais on a des personnages très forts comme ça qui, même si elles ne prennent pas les devants, c'est elles qui dirigent. Galadriel, c'est un cas un peu à part parce qu'on la voit un peu plus. Mais elle aussi, quand elle est tentée par l'anneau, elle va choisir le retrait. Elle va dire non, je pourrais être une reine terrible et puis tout le monde m'adorerait, désespérerait, mais elle a quand même la sagesse de dire de toute façon ça ne mènera à rien et je préfère rester petite entre guillemets parce que c'est quand même Galadriel, mais et gouverner son peuple, etc. Enfin, il y a une sorte de refus de faire de l'éclat, de refus de prendre trop les devants pour mieux être derrière et mener en sourdine. Éowyn est un cas aussi particulier, évidemment.
Elle est forcée à se mettre en avant.
Elle est forcée à se mettre en avant, effectivement. Parce qu'elle ne veut pas vivre enfermée, elle veut pas. Elle est quand même princesse, pas rien. Donc garder les vieux et puis s'occuper de son peuple, ça embête un petit peu. Surtout qu'elle est un peu amoureuse aussi d'Aragorn qui va partir mourir, donc elle veut le rejoindre. Mais c'est parce qu'on lui ferme toutes les portes qu'elle se trouve obligée, du coup, de faire des faits d'armes.
D'ailleurs, c'est la seule allusion à une histoire d'amour, la Seigneur des Anneaux, c'est Éowyn et Aragorn. En fait, c'est une histoire d'amour.
Arwen aussi.
Et Arwen, mais.
Il y a Sam et Rosie.
C'est Éowyn.
Il y a Sam et Frodon.
C'est le seul
ange. Qui motive une. Comment dire. Une intrigue. Qui motive une intrigue.
Alors, dans c'est le Seigneur des Anneaux, peut-être. Et c'est le seul amour déçu, d'ailleurs. Mais bon, au final, Faramir, c'est pas non plus...
Faramir,
s'il
n'y avait pas Aragorn, il n'y aurait pas eu Faramir.
Voilà. Mais c'est vrai que là, dans ce sens-là, effectivement, c'est le seul amour moteur. Par contre, quand on lit les annexes du Seigneur des Anneaux, Aragorn, tout ce qu'il fait, c'est pour conquérir Arwen.
Ah oui, complètement.
Mais c'est pas écrit dans le Seigneur des Anneaux, c'est dans les annexes.
Mais cela dit, sur la thématique de la mort, c'est vrai que c'est un peu absent du Seigneur des Anneaux, mais dans tout ce qui est les poèmes, bon, je pense notamment aussi à Marion avec... désolé, je ne sais absolument pas prononcer les noms. Mais bon, même si... en plus, moi, à l'époque où j'ai lu ça, moi, je connaissais pas encore très bien l'univers, mais au niveau de la qualité de littéraire, c'est un très très beau poème d'amour. Bon, on l'a lu ici même la semaine dernière, d'ailleurs. Enfin, on l'a vu pour nous. voilà, c'est très bien construit. Mais c'est vrai que dans l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est assez absent. Et je vais rebondir sur ce qu'on parlait tout à l'heure, une sorte de théorie que j'ai, mais pour l'histoire de justement Éowyn, qui est vraiment la femme qui se démarque parce qu'elle place justement un pied dans le monde des hommes. Et bon. Malheureusement, c'est triste à dire, mais comme j'en viens à connaître de plus en plus le personnage de Tolkien, je pense que cet épisode-là, si je me mets un peu à sa place, j'essaie de réfléchir un peu comme lui, je pense que cet épisode-là a plus été marqué pour placer une référence justement par rapport à toutes les influences qu'il avait, et je pense notamment à je sais plus ce que c'est, laquelle c'est, l'histoire avec les Valkyries, C'est Brunhilde, il me semble.
C'est dans la mythologie, je ne sais pas.
Et donc, il y a cette histoire-là de la femme guerrière, de la vierge guerrière, qui va se battre pour le Mjallem. Et je pense que dans ce cas précis, c'est il a plus écrit ça pour faire une. Peut-être même pas une référence, parce qu'on a vu chez lui, on a dit que c'était pas toujours conscient, c'est son terreau. Mais voilà, il faut pas y voir, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui voient une insinuation, enfin l'émancipation de la femme. Je ne pense pas que c'était tout à fait ce genre de personne. Il avait ses qualités, il avait aussi ses défauts. Bon, le fait d'être l'homme de son temps, enfin ce qu'on considère comme un défaut aujourd'hui en tout cas, de son temps, c'était considéré comme quelqu'un très respectable.
Et puis il y avait aussi une prophétie à accomplir.
Tout à fait.
Ah oui.
La mort du roi sorcier, ça ne pouvait pas être fait par un homme, donc voilà. Il fallait bien une femme.
Ça aurait pu être fait par un elfe.
Oui, ça aurait pu.
C'était un mal
mais
nécessaire.
C'était aussi une façon de jouer avec les mots. Parce qu'effectivement, on attendait un nain, on attendait un elfe, mais c'est une femme.
Vous avez dit que Tolkien avait préparé le Silmarion, le Seigneur des Anneaux, Bilbo, etc. Il présente une grande partie de l'histoire de la Terre des Milieux. Mm-hmm. Est-ce que d'après vous, il y a quelque chose après ? Est-ce qu'il a imaginé ?
Commencé à écrire quelque chose qui se passerait après la guerre de l'Anneau. Il est mort avant.
Ouais. Il y a eu d'autres fins. Il y a au moins deux écrits qui sont après le Seigneur des Anneaux, que Foradan m'a gentiment transmis. Mais bon, comme je disais tout à l'heure en ouverture, la suite, c'est nous qui la vivons.
Et il raconte quoi dans ces suites,
Il y a très peu de choses. C'est moi, celui dont j'ai connaissance que d'un. Il y a quelques pages, pas plus.
C'est deux nouvelles.
L'ombre qui revient, c'est tout.
Il y a l'ombre qui revient d'un côté, l'autre côté, c'est Sam qui raconte à ses enfants des histoires.
Ah oui, ça c'est le. Oui, effectivement.
Ah, donc c'est. Il n'y a pas grand chose.
Pour lui, c'était achevé.
Disons. Enfin, je ne sais pas si c'était achevé, mais il avait tellement de matière encore à mettre en forme.
Ouais. Que... L'histoire en elle-même était achevée. Par contre, ce qui voulait continuer, lui, c'était d'explorer le monde.
Oui, c'était plus en arrière.
Ouais.
Le passé qui allait.
Le développer.
Puis, bon, je pense qu'après avoir fini Le Seigneur des Anneaux, qui est quand même assez conséquent, et puis connaissance. Son art de revoir les détails, de dire « Ah, alors là, la lune, j'ai dit qu'elle était au premier croissant, alors qu'après, elle est au cinquième, il y a un problème. » Enfin, il a vraiment un souci du détail qui lui prend énormément de temps. Ce qui fait qu'arrivé quasiment à la fin de sa vie, je pense qu'il n'avait plus trop...
Il était sur le Silmarillion. Le Silmarillion a été publié après sa mort. Hein. C'est une réunion de textes qui a été compilée par son fils. Il ne l'avait pas mis en forme comme ça à la base. C'est des textes sur lesquels il a passé quasiment toute sa vie, parce que Silmarillion, il a commencé à peu près en même temps que Bilbo.
Il avait encore trop à faire en fait avec ses anciens textes pour avancer encore, continuer.
Les contes et légendes inachevées également, je crois qu'au départ c'était pas destiné à être. Enfin, c'est deux ouvrages qui sont pas. Qui sont une compilation de textes qui ne sont pas forcément des liens. Entre eux, je crois que c'est son fils qui a voulu les. Lui, il ne voulait pas du tout.
C'est ça.
C'était un matériel qui était trop. Pas achevé, en fait, justement.
C'est vraiment du brut.
Ils ont été publiés tels quels, d'ailleurs. Ouais. Avec des annotations, énormément de notes de bas de page, ce qui aura une lecture très difficile.
Non, je trouve qu'ils apprennent beaucoup. Beaucoup, et qui renseignent beaucoup sur la Terre du Milieu, le Seigneur des Anneaux, notamment. Moins compliqué que le Silmarillion.
Peut-être parce que les textes sont aussi plus courts,
oui,
je pense. Et qui font moins, enfin, qu'il y a moins de personnages qui sont impliqués. Par contre, ce qui pose problème, c'est la traduction française. Parce que, alors, en anglais, c'est difficile à comprendre, mais au moins, les noms des personnages ne sont pas mélangés. Je me rappelle quand j'avais 13-14 ans, que j'avais commencé à lire Silmarillion, je m'étais fait des fiches avec les noms des personnages pour essayer de les suivre. Et des fois, je ne comprenais pas parce que Fingolfin devenait Finarfin pour redevenir Fingolfin après. Donc, c'est des erreurs à la traduction en fait qui rendent ça très difficile à suivre. Donc, mais il faut le savoir évidemment.
Il y en a tant qu'il est le fils de l'autre.
Honnêtement, je m'en bats plus.
Je sais plus.
Non, les arbres généalogiques chez Tolkien, ce n'est pas la peine.
Puis en plus, tous les noms se ressemblent. Parce que...
j'aurais les elfes. Ouais.
C'est
en même temps, chez les nains, c'est pareil.
Oui, chez les nains, c'est pareil.
C'est ça, je crois. Puis, bon, c'est malheureux d'appeler le fils du même nom, presque du même nom que le père.
Oui, avec une syllabe qui change au milieu.
Mais bon, cela dit, toutes les étymologies des noms sont réfléchies, enfin la plupart en tout cas.
Ou inventé après coup.
Ce qu'il a fait à partir d'un certain point, c'est quand même qu'il a bien réfléchi. Si je me souviens bien, c'est les prénoms, par exemple Gandalf, je crois que c'est du norrois.
Norrois.
Je sais plus. Mais bon, après, quand il a vraiment commencé à réfléchir sur l'étymologie des noms, dans vraiment les. Genre, plus des noms des langues, le Sindarin.
Sindarin, Mkenya.
Voilà.
Les arbres généalogiques dans le Seigneur des Anneaux à la fin, c'est lui qui les a fait ?
Oui.
Tous ?
Oui, tous. Il partageait le goût des hobbits pour les arbres généalogiques. Et il a fait ça aussi pour les
elfes. Et pour l'herbe à pipe.
Et oui, et puis
le bon manger et le bon boire.
Enfin, bon manger, bon boire, il n'aimait pas la cuisine française.
Il n'aimait pas les Français de manière générale.
C'est juste qu'il, en tant qu'anglais, c'est pour ça que c'est un bon anglais d'ailleurs. Parce qu'il
n'avait
pas la même définition du bon manger que des Français.
Exactement. À part pour les gâteaux, on s'entend pas trop sinon. Je voyais un signe qui était fait à l'arrière. Non.
D'autres questions, des réactions?
Marie, peut-être.
Moi, j'écoute. C'est très intéressant. Moi, je ne suis pas. J'ai pas la prétention d'être spécialiste, de m'y connaître autant en Tolkien. Moi, j'ai lu les livres. Et la première fois que j'ai découvert Tolkien, j'ai honte d'ailleurs, c'est par le premier film de Peter Jackson.
Il n'y a pas de honte.
À la base, je n'avais pas lu.
De toute façon, il y a toute une génération qui est passée par là. Donc.
Et après, en ayant vu ce film, je me suis dit, mais c'est super. Et j'ai dévoré Les Trois Seigneurs des Anneaux et j'ai lu tout Tolkien après.
Il n'y a pas de honte à avoir.
Et du coup, c'est vrai que c'est un univers que j'ai vraiment découvert comme ça. Et c'est vrai que. Il n'y a rien qui lui arrive à la cheville.
C'est bien parce que tu as réussi à reconnaître le livre à partir du film. Alors que moi, non.
Alors, il y a certaines choses sur les adaptations auxquelles je ne suis pas d'accord, comme la fin du 3, par exemple, où la comté est ravagée par Saruman est complètement zappée. Ouais. Ce qui m'a beaucoup déçue, d'ailleurs. Après c'est tout le problème des adaptations, ça c'est encore un autre débat.
Oui,
c'est
ça nécessiterait une autre table ronde.
Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir comment il interprète le livre. Donc c'est vrai qu'après.
Oui, bon, après les grandes lignes de l'histoire ont été respectées. Et puis,
il y a un anneau et à la fin il le jette dans la montagne.
Voilà.
C'est le principal.
Après le souci c'est qu'on perd évidemment le. C'est un peu généraliste sur l'adaptation, mais ça se cristallise encore plus avec Tolkien. Justement, c'est qu'on perd le côté imaginatif qui est vraiment très important dans l'univers pour lui, en fait. Il voulait en faire un film, ils en ont fait un film. On attend tous avec impatience Bilbo le Hobbit pour voir ce que ça va donner.
Oui, en entendant qu'on trouve Frodon, Legolas et Aragorn. Non, mais pas Aragorn, il n'y a pas, mais qu'on trouve Frodon et Legolas, on peut légèrement s'inquiéter.
Legolas, ça pourrait s'expliquer.
Le casting ne correspond
pas. Il n'apparaît pas dans les bouquins, mais
dans la forêt noire.
Frodon, ça.
Peut apparaître.
Un peu moins.
Frodon, moins.
Ça dépend. Ça
justifie. À moins que ce soit un comeback.
Un flashback.
Peut-être quand il rentre.
Oui, ou qui raconte, c'est l'histoire que je te passerai, machin. Et puis
la volonté est de faire un film en deux parties, avec une deuxième partie qui fait la liaison avec le Seigneur des Anneaux. Donc l'un dans l'autre. À voir.
À voir.
Non, pour l'instant,
c'est pas
dans les règles,
je crois.
Je crois que
c'est
encore annulé.
On sait pas trop
ce qu'ils arrêtent
pas de le.
Décembre prochain.
On sait pas vraiment.
Décembre 2012, pour l'instant.
Oui, c'est ce qu'ils vont faire. Ils sont,
encore en tournage, là. Ils ont dû arrêter le tournage à cause de temps. Ils sont encore en tournage.
Il y a trop d'argent en jeu pour que ce soit fait.
Oui, oui. Enfin, c'est déjà bien qu'ils aient commencé le tournage, parce qu'effectivement, ils n'arrêtent pas de leur pousser. Je crois que c'était en 2010 qu'ils l'ont annoncé pour la première fois. Je me rappelle l'avoir vu. Et c'est déjà bien qu'ils aient commencé, au moins. Pour qu'on voit. Non, mais cela dit, il y a un... Enfin, pour moi qui m'intéresse un peu au cinéma, il y a un bon casting, puisque celui qui... Enfin, j'espère que ce sera lui, c'est qui va jouer le rôle de Bebo, c'est Martin Freeman, qui est un très bon acteur anglais.
Très bon.
Et qui, justement, qui sera parfait pour ce rôle, parce qu'il est parfait pour les rôles d'anglais de base. Je sais pas si vous avez vu le guide galactique de Douglas Adams, l'adaptation en film.
Ouais.
Bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais il joue le rôle principal quasiment à la perfection. Et là, bon, il va se retrouver dans la peau de Bilbo, bon, qui est le petit anglais, enfin le petit hobbit. Donc ça promet d'être très réussi. Et il y aura notamment une apparition donc, du fameux personnage de Tom Bombadil, qui sera interprété par Sylvester McCoy, qui jouait le 7e Doctor Who dans les années 80, enfin bon, ça remonte là. Mais sinon, non, c'est... Je pense que ce film s'annonce assez intéressant, mais bon, la peur qu'on a eue en fait en voyant le casting, c'est que... Bon, c'est plus ou moins justifié, mais maintenant que Peter Jackson, grâce à ces films-là, a acquis une notoriété en fait qui est quasiment... qui des fois égale même celle des livres, on avait un peu peur qu'il commence à se reposer sur le fan service et qu'il introduise des différences dans l'histoire et auquel cas en fait il n'y aura pas beaucoup de monde pour se plaindre parce que les fans du film c'est aussi une communauté qui est très importante. Enfin, l'avenir le dira.
Donc je suis désolée, la discussion part sur les adaptations, c'est très intéressant, mais donc il va falloir que je fasse la conclusion. On me fait signe qu'il faut que j'aille. Donc je vous remercie beaucoup d'être venu. Cathy, si tu veux bien venir te rapprocher des intervenants, s'il te plaît. Alors, on a fait un peu classique, hein, on est... Voilà, donc pour remercier tout le monde, donc tout d'abord... Stéphanie, merci de t'être déplacée, venue.
Oh, c'est super gentil.
Gabriel, tu as les chocolats.
Parce que les fleurs, c'est périssable. Voilà.
Ouais, donc, on vous remercie bien d'être venue à cette table ronde. Et alors, Cathy, ça, c'est pour toi.
Merci.
Pour te remercier d'avoir été aussi présente pour nous, de nous avoir beaucoup aidé à mettre en place ce projet. On remercie également beaucoup la bibliothèque de Fontaine de nous avoir fait confiance parce que on est vraiment arrivé comme ça en disant voilà, nous on a un truc, ça vous intéresse, ah oui, et ils nous ont laissé totalement carte blanche, donc on les remercie énormément de nous avoir fait autant de confiance. Et,
Alors je sais pas si vous connaissez la bibliothèque de Fontaine, mais allez-y.
Elle est vraiment géniale, l'équipe est super. Donc voilà, donc on espère que vous avez passé donc un bon moment à discuter autour des thèmes de Tolkien. Et donc si ça vous a plu, notre exposition, je fais un peu de pub au passage, notre exposition reste jusqu'au 6 janvier à la bibliothèque, donc vous pouvez faire passer le mot pour faire venir vos amis, vos enfants, vos cousins, vos petits-cousins, toute votre famille, si vous voulez, on sera ravis d'avoir des avis écrits sur le livre d'or. Pour comme ça, notre projet aura vraiment atteint ce qu'il cherchait.
T'as pas une citation des livres pour leur entièrement
Je ne vous dirai pas de ne pas pleurer car toutes les larmes ne sont pas un mal, tu vois ça C'est la seule qui me vient en tête. Je ne connais pas les livres par cœur. Voilà, donc bon. Vous pouvez vous lever, hein, les. Voilà.